Europe Soir,
le 18-20,
Julien Bugier.
Et on est ensemble évidemment jusqu'à 20h avec le journal. Et juste après, on ouvre comme chaque soir le Club des idées. On vous décrypte le monde qui change et on prend le temps de se faire son opinion. Ce soir, Haro sur la publicité. Faut-il interdire les pubs pour les produits polluants? Un projet de loi serait en préparation. Des députés ont déposé une proposition à l'Assemblée nationale. Nutella, voiture 4x4, t-shirt à bas coût qui vient du bout du monde. La fin de la pub, de tout ce qui pollue. Un peu sur le principe de la loi E20 version écolo. Alors faut-il interdire ou arrêter d'interdire? On en débattra justement tout à l'heure avec nos invités. Et juste avant, ce sera l'heure de la carte blanche du Club des idées avec ce soir l'écrivain et entrepreneur, esprit libre aussi, Alexandre Malafaille et son coup de cœur à Éric Dupond-Moretti. Mais d'abord le journal avec Simon Rubin. Et il est 19h sur Europe 1.
L'essentiel, c'est de repérer les personnes qui ont une quantité importante de virus dans la salive, puisque ce sont elles qui sont l'origine de contamination.
Moins invasif et tout aussi fiable. Au lieu du test PCR, et si on essayait des tests salivaires? Reportage à Montpellier, où un laboratoire mène l'expérience avec succès avec le CHU et le CNRS.
Emmanuel Macron visite dans un EHPAD aujourd'hui, l'occasion pour lui de lancer l'immense chantier sur le grand âge, un enjeu économique et humain, bien sûr.
Notre façon de travailler, votre façon de travailler est-elle sur le point de changer durablement? Le patronat accepte en tout cas d'ouvrir une première négociation avec les syndicats le 3 novembre pour parler télétravail.
À l'ONU, Donald Trump passe à l'attaque et pointe une nouvelle fois la Chine comme responsable de la propagation du coronavirus.
Quand les voitures ne sont pas là, les vélos dansent. Journée mondiale sans voiture aujourd'hui. L'occasion de revenir sur le boom des déplacements à vélo, pas forcément à la grande joie des piétons.
À découvrir dans quelques secondes. Et puis, la tendance météo avec vous, Anissa. Doux et pluvieux au programme demain.
Oui, les températures sont encore douces. Demain, ça sera le dernier jour avec une perturbation pluvieuse qui arrive par l'ouest. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tandis que l'on redoute une deuxième vague de coronavirus en France, la lutte s'organise sur deux fronts. D'un côté, les mesures de précaution, les gestes barrières, les interdictions, notamment de rassemblements massifs, comme dans le Rhône hier ou le Gard aujourd'hui. Et puis sur l'autre front, les tests. Et on vous emmène ce soir à Montpellier, où la société EasyCov travaille avec le CHU et le CNRS depuis plusieurs mois pour mettre en place des tests salivaires.
Oui, moins invasifs et tout aussi fiables, assurent les médecins du CHU qui utilisent ce test. Benjamin Péter, vous avez vu comment tout cela fonctionne concrètement?
Oui, on récupère un peu de salive avec une pipette sous la langue. Le prélèvement est chauffé deux fois dans une petite valise. On lui ajoute un révélateur de couleur. Jaune, c'est positif. Orange, négatif. En moins d'une heure, vous êtes fixé. L'idée pour Franck Molina, qui pilote le projet au CNRS, c'est d'être complémentaire des tests PCR classiques.
Ces résultats n'ont pas besoin d'être faits en congestionnant les laboratoires d'analyse. Ils peuvent aussi être réalisés sur le terrain, à l'entrée des EHPAD, au sein des entreprises. Nous pensons qu'en termes d'efficacité aujourd'hui, il faut multiplier les points de test plutôt que augmenter le flux sur un très petit nombre de points de test.
Alors vendredi, la Haute Autorité de Santé recommandait les tests salivaires, mais seulement pour les patients symptomatiques, incompréhensibles pour le professeur Jacques Rennes, qui réalise l'évaluation de ces tests grandeur nature au drive du CHU.
On est assez surpris, nous n'avons pas ces résultats actuellement. La salive est peut-être un peu moins sensible que la localisation rhino-pharyngée, mais l'élément essentiel, c'est de repérer les personnes qui ont une quantité importante de virus dans la salive, puisque ce sont elles qui sont l'origine de contamination.
Ils ont donc prévu de publier des résultats intermédiaires de leur étude d'ici la fin de la semaine pour convaincre le gouvernement et la Haute Autorité de Santé de la fiabilité de leur procédé.
Benjamin Péter pour Europe 1, et on en est aujourd'hui à 31 338 décès dus au coronavirus en France.
Oui, c'est dans ce contexte que le président de la République était lui en déplacement dans un EHPAD dans le Loir-et-Cher aujourd'hui.
L'occasion de revenir sur l'extrême prudence dont chacun et chacune doit faire preuve pour éviter de transmettre le virus aux personnes âgées. On sait que les indicateurs de propagation du Covid chez les plus de 65 ans sont inquiétants. Emmanuel Macron en a également profité pour mobiliser autour du vaste chantier du grand âge qui va débuter tout prochainement, un enjeu politique, sociétal et économique.
On vit de plus en plus vieux dans nos sociétés et nous devons nous en féliciter parce qu'on prévient mieux, parce qu'on soigne mieux. Mais ça suppose aussi d'adapter notre réponse. Et ce sera au cœur de ce que dans les prochaines semaines, nous allons avec la ministre lancer le Laroc de l'autonomie, où on va permettre, avec l'ensemble des professionnels, au fond, d'investir dans le grand âge. Ça veut dire revaloriser des métiers, qui ne sont pas suffisamment valorisés. Donner plus de liberté aux acteurs de terrain, leur permettre de décloisonner les choses, de mieux travailler entre les établissements, l'hospitalisation à domicile. Et puis c'est un travail de réorganisation et de réinvestissement qui passe par de l'innovation d'organisation, qui passe par de l'innovation en termes de domotique, mais qui est de savoir comment nous redonnons une place à nos aînés pour vivre heureux dans la société.
Emmanuel Macron qui était en visite dans un EHPAD du Loir-et-Cher. Avec la crise du Covid, vous avez et nous avons presque tous et toutes expérimenté, de près ou de loin, le télétravail. Un changement radical dans notre manière de travailler et même, disons-le, dans notre manière de vivre.
Oui, c'est pour mieux s'adapter à cette nouvelle pratique que le patronat et les syndicats ont convenu de discuter ensemble en novembre prochain. Alors Olivier Samin, les décisions qui sortiront de ces échanges pourraient-elles changer durablement notre manière de travailler ?
Alors il est encore un peu tôt pour le dire. La nouveauté du jour, c'est le fait que le patronat, qui ne voulait pas en entendre parler jusque-là, accepte finalement d'ouvrir une négociation avec les syndicats sur la question du télétravail. Non pas, précise-t-il aussitôt, pour aboutir à un texte qui ajouterait des règles à ce qui existe déjà, mais pour permettre une mise en œuvre réussie du télétravail dans les entreprises. On voit tout de suite la nuance. Les syndicats qui réclamaient la négociation d'un accord en bonne et due forme avec l'instauration d'un cadre nouveau applicable à toutes les entreprises, les syndicats restent un peu sur leur faim, mais acceptent malgré tout de prendre part à cette négociation, tous les syndicats sauf un, qui réserve encore sa réponse, la CFTC.
Dans ces négociations, Olivier, il sera notamment question de sujets qui n'étaient pas d'actualité il y a quelques années et qui sont vraiment apparus au grand jour avec le télétravail de masse imposé.
Oui, le télétravail comme réponse à des circonstances exceptionnelles, par exemple, voire à des cas de force majeure. L'articulation du télétravail avec la vie de famille, sujet ô combien sensible pendant le confinement. Les changements nécessaires en matière de pratiques managériales, les enjeux territoriaux aussi et l'usage des tiers-lieux qui ne sont ni le domicile ni le bureau. Autant de thématiques sur lesquelles tout reste à écrire.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
À l'ONU, Donald Trump attaque la Chine une fois de plus, qu'il cible comme responsable de la propagation du Covid-19.
La Chine avait pourtant joué l'apaisement avant son allocution, assurant qu'elle ne souhaitait pas entrer dans une nouvelle guerre froide. La réponse du président américain s'est faite, comme souvent, assez virulente.
Nous sommes engagés dans une bataille féroce contre l'ennemi invisible, le virus chinois. La nation qui a lâché cette plaie sur le monde doit rendre des comptes. C'est la Chine. Dans les premiers jours de l'épidémie, la Chine a stoppé ses vols intérieurs. Mais elle a autorisé des avions à quitter la Chine et à infecter le monde. Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui est en fait contrôlée par la Chine, ont déclaré à tort qu'il n'existait pas de preuves de transmission humaine. Les Nations Unies doivent tenir la Chine pour responsable de ces actes.
Le président Donald Trump, les États-Unis qui ont franchi la barre des 200 000 morts liées au Covid aujourd'hui sur près de 7 millions de cas recensés.
Europe 1, Julien Bugier.
19h08, la suite de votre journal dans quelques instants. Et on évoquera ces vélos de plus en plus nombreux dans nos rues, dans nos villes, des cyclistes qui se croient parfois à tout permis et des piétons pas franchement ravis.
Et puis il sera question de cinéma avec la sélection de Mathieu Charrier, Blackbird et Les Apparences.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, 19h10, la suite de votre journal avec Simon Rubin. Et c'est la journée mondiale sans voiture aujourd'hui. Vous l'aurez remarqué de manière générale, depuis quelques mois, on voit de plus en plus de vélos dans les rues, dans les villes. Le vélo, la grande alternative évidemment à la voiture.
Mais la cohabitation est parfois difficile avec les piétons. Ça vous est peut-être arrivé de devoir prier au moment de traverser la rue, tremblant parce que des dizaines de vélos slaloment dans tous les sens, voire grillent les feux. Si c'est le cas, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul.
Reportage. Mais pas de vélo, vous.
Ah si, j'en ai. Je respecte les feux. Pas forcément comme les utilisateurs que Laura Taouchanoff a rencontrés.
Le long de la Seine, ces nouvelles autoroutes à vélo, ce sont chaque jour plus d'un millier de cyclistes qui déboulent à 20 km/h au point de changer le rapport des piétons à la route.
Là, c'est bon. Le monsieur, il est tranquille, donc il s'est arrêté. C'est bon.
Pas facile pour Maryse.
Moi, je lève la main pour signaler que je vais traverser. J'ai maintenant ce réflexe. On en est là, quoi.
Des salariés pressés après la pause déjeuner, des jeunes, musique à fond dans le casque, et des livreurs en pleine course contre la montre. Ces cyclistes sont devenus rois, déplore la Parisienne.
C'est dommage parce qu'on est tous piétons dans la vie Et il n'y a pas ce réflexe de dire c'est le feu rouge, je m'arrête. On est obligé d'avoir les yeux partout. C'est le risque au quotidien.
Un espace public devenu une jungle pour les piétons, admet Jean-Marie Darmian, le président des clubs des villes et territoires cyclables, pour qui il va falloir trouver le moyen de cohabiter.
Le sentiment de liberté que donne le vélo, qui est peut-être nouveau pour certains, fait croire que tout est permis et qu'ils n'ont pas respecté de règles. L'absence de pratique citoyenne du vélo peut être un obstacle très fort à son développement dans les prochaines.
Un boom de cyclistes qui sature déjà les 500 km de pistes supplémentaires construites en France depuis le mois de mai.
Le reportage de Laura Taouchanoff, qui est cycliste également. Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, placé en garde à vue aujourd'hui dans le cadre de l'enquête portant sur ses liens avec l'homme d'affaires Moed Altrad. Ce dernier ainsi que trois autres personnes ont également été placées en garde à vue. Bernard Laporte, dans un courrier adressé aux clubs amateurs du pays, dénonce une tentative de déstabilisation à moins de deux semaines de l'élection pour la présidence de la FFR.
Et puis un autre dirigeant sportif devant la justice, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, le parquet suisse a requis 28 mois de prison contre lui dans le cadre d'une affaire d'attribution de droits télé avec la FIFA.
Parlons cinéma en cette veille de sortie en salle avec vous, Mathieu Charrier. Ce soir, vous nous proposez deux films et le premier, c'est un film européen, Blackbird, signé Roger Mitchell, qui avait notamment fait battre des cœurs avec Coup de foudre à Notting Hill.
Oui, Blackbird, qui est un film lumineux, malgré le thème difficile qu'il aborde, celui du système du suicide assisté. L'histoire, elle est simple. C'est Lily, qui est jouée par Suzanne Sarandon. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative. On le voit à l'écran, son corps est en train de la lâcher et elle a décidé de se donner la mort. Mais juste avant, elle invite sa famille et sa meilleure amie dans la maison familiale pour profiter ensemble d'un ultime week-end. Alors tout le monde est au courant de la situation et ça donne un film vraiment bouleversant sur la famille, sur les sentiments familiaux, car pendant tout le week-end vont s'enchaîner règlements de compte, non-dits, mais aussi déclarations d'amour et vrais moments de complicité, drôles même parfois. Donc n'ayez pas peur du thème, allez voir Blackbird, l'expression est convenue, mais vraiment vous allez passer par toutes les émotions.
Bien, et dans un autre style, votre deuxième choix ce soir, ça s'appelle Les Apparences et c'est porté par Karine Viard et un certain Benjamin Biolay.
Exactement. Là, c'est l'histoire d'un couple prêt à tout pour sauver justement les apparences. En l'occurrence, Eve et Henri, ils vivent à Vienne. Lui est un grand chef d'orchestre. Elle travaille à la bibliothèque de l'Institut français. Voilà, ils vivent dans un grand et bel appartement. Bref, en apparence, le couple parfait. Jusqu'au jour où Eve découvre qu'Henri la trompe. Rien de très original, vous allez me dire. Sauf que tout leur entourage commence petit à petit à être au courant. Et Eve n'a alors qu'une idée en tête, sauver son couple et se venger en couchant elle-même avec un jeune homme qui va ensuite la harceler. Voilà, vous avez tous les ingrédients d'un bon thriller social angoissant, une comédie autour des mœurs, très inspirée de l'univers de Chabrol, qui croque aussi la vie des expatriés. Ça s'appelle donc Les Apparences et c'est signé Marc Fitoussi.
Merci Mathieu Charrier, notre spécialiste cinéma.
Vous en parlez super bien, ça donne très envie.
Ah, tant mieux.
Et c'est important en ce moment pour soutenir le cinéma.
Exactement.
D'aller dans les salles si vous en avez l'occasion. Merci pour le journal Simon Rubin.
Merci.
Et à demain. La météo avec Anissa, une journée de transition demain qui nous attend.
Vous
peut-être
savez...
l'occasion justement d'aller au cinéma.
Exactement, tiens. C'est le calme avant la tempête. Alors, je vous rassure, jeudi, c'est pas la tempête qui arrive, mais c'est clairement un changement de temps. On va vraiment avoir une baisse de température, un ciel gris. Alors demain, il y a une dégradation pluvieuse qui arrive par l'ouest, avec sur la Bretagne et la Normandie, jusque sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Bourgogne. Le parapluie qui sera pour vous dans toutes ces régions obligatoire, avec dans l'après-midi sur le nord-ouest et le Limousin des orages qui éclatent. Et puis dans le sud, là c'est le retour du soleil, avec un ciel bien dégagé au bord de la Méditerranée, de belles éclaircies. Mais attention tout de même aux orages aussi du côté des Pyrénées et de la Corse. Les températures, elles sont douces demain, c'est vraiment jeudi qu'elles vont baisser, avec 9 degrés au Puy-en-Velay, 11 à Aurillac, 13 à Belfort et 15 à Paris le matin. Et puis dans l'après-midi...
Ah oui, ça baisse sévère là.
Ouais, ça baisse un petit peu effectivement. Et puis dans l'après-midi, il fait plus frais sur le nord-ouest avec 17 à 21 degrés, 22 à 28 sur le reste du pays, 23 à Paris, 28 à Carcassonne. On est encore au-dessus des normales de saison. Tout va se passer dans la nuit de mercredi à jeudi.
De toute façon, je vois quand il va faire mauvais parce que vous habillez différemment. Là,
c'est
vous avez une chemise très jolie, mais kaki.
Ouais,
donc
c'est
ça annonce
pas
la
bon
pluie.
Ouais, c'est
pas bon
signe. Demain, je serai en noir de la tête aux pieds.
Ah mince, mince. Restez chez vous alors. Merci, merci Anissa. 19h15, trêve de plaisanterie. On ouvre maintenant, comme chaque soir, le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, je vous dis, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain et entrepreneur, esprit libre aussi, comme tous les éditorialistes du Club des Idées, Alexandre Malafaille.
Bonsoir.
Bonsoir. Alexandre qui n'a pas sa langue dans sa poche ce soir et qui veut adresser un coup de cœur, c'est assez rare pour le souligner, à... Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux.
Absolument, Julien. Un coup de cœur en fait pour sa proposition de nomination de Nathalie Roret à la tête de l'École nationale de la magistrature, l'ENM,
première femme et première avocate à occuper ce poste depuis la création de l'ENM. C'est quand même courageux, il faut le dire. Bravo, monsieur le garde des Sceaux. Alors, il faut replacer cette nomination dans le contexte de la nomination, enfin des propos d'Éric Dupond-Moretti. Il faut écouter ce qu'il dit sur la justice. Il dit des choses qui sont très dures, mais il dit la vérité, la justice va mal. Pour les citoyens, la justice, elle est trop longue, trop chère, pas claire et pas assez humaine. Il y a une vraie fracture qui se construit. Il y a une fracture qui se construit également avec les avocats, parce qu'on est vraiment face à un problème de tension croissante et de mépris des magistrats pour les avocats. Or, les avocats, ce ne sont pas des gens qui ont raté l'école nationale de la magistrature. Du coup, Dupond-Moretti, il donne un coup de pied dans la fourmilière.
Oui, mais par contre, les magistrats, eux, ils sont colère contre cette nomination.
Ah oui, clair, parce qu'effectivement, ils prennent ça pour eux, mais ils ont tort. C'est un problème d'intérêt général. Il faut juste se mettre à la place des justiciables. Une bonne justice, ce n'est pas qu'un problème de juge, c'est aussi des bons avocats. Le juge, il connaît le droit. L'avocat connaît le justiciable. C'est très important. Mais aujourd'hui, ils devraient tous se mettre ensemble pour essayer de réparer le problème, parce qu'il y a vraiment le feu.
Et pourquoi il a pris cette décision, Éric Dupond-Moretti? Parce que c'est vrai que dans un livre, il avait déjà envoyé signal de la volonté de réformer cette école de la magistrature.
Ouais. Il a une vraie expérience de la magistrature et du barreau. 145 acquittements durant toute sa carrière en procès d'assises.
Acquittateur, c'est remarquable. On l'appelle.
Acquittateur, exactement. Non, mais c'est un grand maître de la procédure pénale. C'est un grand travailleur. Moi, je l'ai vu plaider. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui après une audience. Voilà, il a le culte du contradictoire. Il faut que chacun puisse se défendre et là-dessus, il est très fort.
Mais vous savez qu'il y a plein de gens, moi un peu y compris, qui ne comprennent pas cette histoire de l'école nationale de la magistrature. Pourquoi elle formerait des mauvais juges ? C'est une bonne école.
C'est une bonne école, mais c'est comme l'ENA, ça vous déconnecte des réalités et ça vous enferme. En fait, le sujet aujourd'hui, la réforme de l'ENM, si on pouvait la mettre sur la table, c'est une réforme qui permettrait en fait vraiment de revoir le cursus de formation des magistrats et notamment de leur permettre de faire, par exemple, pendant une période de 3 mois, de 6 mois, une immersion dans un commissariat, aller travailler avec des avocats, qui se rendent compte comment ça se passe dans l'envers du cœur, de l'autre côté, pour qu'ils apprennent un peu l'expérience de la vraie vie de ceux qui sont concernés par la justice.
Mais donc, vous pensez que la nomination d'une avocate à la tête de cette école, ça peut changer les choses?
Écoutez, ça devrait faire bouger les lignes, évidemment. Il joue très gros, Éric Dupond-Moretti, parce qu'il y a beaucoup de crispation. On le voit, il y a même un mouvement de grève, entre guillemets, de mobilisation des magistrats.
Un moment, ils voulaient même supprimer l'école.
Oui, c'est vrai. Mais là vous avez l'heure. Jeudi, il y a les magistrats qui vont aller dans les... Oui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait en fait fusionner quelque part la formation des magistrats et des avocats, ou au moins créer un espèce de tronc commun. Mais avant de faire ça, qui est un grand sujet, il faudrait à minima, je vous dis, organiser ces passerelles. Mais on verra s'il a les moyens de son ambition. Pour lui, ce sera très clair. Ce sera le budget de la justice. Est-ce que le président de la République va lui donner les moyens de son ambition? S'il ne lui donne pas, eh bien écoutez, il sera dans la position de celui qui secoue un cocotier sans casque.
Bien, et vous serez là pour nous en parler.
Avec grand plaisir.
Et on l'invitera, Éric Dupond-Moretti. Merci Alexandre Malafaye pour ce coup de cœur. D'habitude, c'est plutôt un coup de griffe. Ce soir, c'était un coup de cœur.
Bonsoir.
Europe 1, Julien Bugier.
19h18, on poursuit dans quelques secondes avec le débat, comme chaque soir, du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la pub. Faut-il l'interdire pour les produits qui polluent et sont mauvais pour notre santé, les sucreries, les voitures SUV par exemple, ou encore les billets d'avion? On en parle juste après la pause.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22, on est toujours ensemble en direct dans Europe Soir et on ouvre évidemment comme chaque soir le débat du Club des Idées avec cette question ce soir. Faut-il interdire la pub des produits nocifs pour notre santé? Nutella, McDo, les véhicules 4x4, l'électroménager pourquoi pas, les billets d'avion aussi. Un projet de loi serait à l'étude sur le bureau de la ministre de l'écologie, Barbara Pompili. Une proposition de loi a aussi été déposée, toujours par les écolos. Changer la pub, c'est changer les mentalités, les actes d'achat, disent-ils. Colère évidemment des publicitaires qui fustige une décision sans fondement qui va plomber l'économie. Alors, haro sur la pub, justifié ou non? On en parle ce soir avec nos invités. Franck Tapiro, bonsoir, président de l'agence Hémisphère Droit. Avec Raled Gaïji, président des Amis de la Terre et président également de Résistance à l'agression publicitaire.
Porte-parole.
On imagine de quel camp vous êtes en tout cas. Bonsoir à vous et merci d'être ce soir en direct dans le studio d'Europe Soir. Et puis Bertrand Chauvet, vous êtes directeur général France de Brand Finance, un groupe, je crois, de conseil en stratégie de marque, c'est ça ?
En évaluation financière de marque.
Bon, très bien. Vous êtes un professionnel des marques et un fin connaisseur de la publicité.
Et de leur impact sur la société.
Alors, qui veut commencer ? Pour ou contre, d'abord, comme ça, là, brûle pour point, l'interdiction de la publicité pour les produits nocifs. Donc, c'est pêle-mêle le Nutella, les voitures polluantes, la fast fashion aussi, avec, vous savez, ces t-shirts, ces shirts qui viennent du bout du monde, qui nécessitent une empreinte écolo très importante pour arriver jusqu'à nos magasins. Il y a aussi les pubs pour comparateurs de prix pour billets d'avion qui seraient également visés. Votre avis sur la question, Franck Tapiro?
Contre toute forme d'interdiction, ça c'est clair. Maintenant, pour une régulation, pour surtout une responsabilité, ce qui est le cas des publicitaires depuis de nombreuses années. Vous savez, on a inventé la RPP, en collaboration avec les médias, les marques, les publicitaires, les pouvoirs publics, pour pouvoir justement réguler. C'est un métier qui se régule énormément.
Oui.
C'est pas un métier de gens complètement cyniques et qui se foutent totalement de l'impact des messages sur la population. C'est exactement l'inverse. Depuis les années 68, le lancement de la pub TV, il y a eu une vague de régulation avec des messages, avec une forme même de restriction par certaines formes. Par exemple, au volant, on ne peut pas monter la vitesse, on ne peut pas montrer des comportements délictueux ou un peu rock'n'roll, comme on le dit. Et ça, c'est la publicité qui se l'impose. Et vous savez, c'est normal, puisque la publicité, c'est un acte créatif.
Qui se l'impose ou on lui impose.
Mais non, c'est un acte créatif. Et vous savez très bien que plus il y a de contraintes, plus on est créatif.
Oui.
Et pourquoi on se l'impose avec les RPP? Parce que c'est de façon concertée, c'est pas subi.
Mais quand même au profit d'un client, d'un produit.
Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Mais ce produit, il y a une demande. Alors parfois, on dit oui, est-ce que la demande est vraiment là? Est-ce qu'on crée pas une demande? Arrêtons ce genre de débat. On va imaginer qu'il y a une demande, il y a un produit qui correspond à cette demande. C'est pas pour autant qu'on se permet tout et n'importe quoi. En revanche, il y a des gens à respecter. C'est le public à qui on s'adresse, pas des consommateurs. Le public est beaucoup plus large. On peut très bien aimer une marque et ne pas l'acheter, mais la recommander, par exemple. Eh bien, il faut respecter ce que ces gens ont en tête, quels sont leurs desiderata, quelles sont les choses qu'ils respectent ou pas. Est-ce que, on parle par exemple d'écologie aujourd'hui, bien entendu. Si on peut faire en sorte, et la publicité a toujours été un vecteur pour faire passer toutes les grandes causes, la lutte contre le tabac, l'alcoolémie, etc., la vitesse, c'est la pub.
Oui.
Eh ben, aujourd'hui, pour l'écologie.
Mais c'est précisément ce qu'il y a dans le projet de loi, que les messages de sensibilisation remplacent d'une certaine manière la promotion des produits. Vous me direz dans un instant, Franck Tapiero, je vais donner la parole à Raled Gaïdji, qui est donc porte-parole de cette association Résistance à l'agression publicitaire. Votre réaction à ce qui vient d'être, dit, pourquoi êtes-vous pour l'interdiction de ces publicités?
Alors, nous sommes pour l'interdiction de ces publicités, déjà parce que le système de régulation, d'auto-régulation, on devrait dire, ne marche pas. Tout d'abord, selon notre point de vue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui a changé par rapport à l'époque, c'est l'impératif écologique.
Oui.
Aujourd'hui, sur les questions écologiques, climatiques, on touche le mur écologique des mains. On n'est plus notre fédération des Amis de la Terre à 50 ans. Là, vraiment, on est vraiment dans une autre époque. Et à partir de là, en fait, la question de la surproduction est posée, la question de la surconsommation est posée. Donc, c'est là-dessus, en fait, aujourd'hui, surtout qu'on appuie. Il y a aussi les questions de santé publique, bien sûr.
Comme vous dites, il y a une question morale, éthique, de valoriser des produits dont on sait qu'ils sont nocifs pour l'environnement et donc, in fine, pour notre santé, parce que les émissions de CO2, c'est nous qui les respirons, c'est ça?
Il y a une question morale et éthique, mais je pense que l'État ne doit pas légiférer sur des questions morales et éthiques. Il doit légiférer sur des questions de politique publique et par rapport à des problèmes de santé publique et notamment environnementaux.
Donc vous, l'angle mort, il est sanitaire. C'est de dire que cette publicité promeut des produits qui sont nocifs pour la santé.
Non, mais j'essaie de vous suivre. Parce que ça coûte cher à l'État derrière de devoir payer justement des problèmes de santé publique et c'est normal qu'il y ait des politiques publiques pour faire arrêter ça, c'est le cas notamment du tabac. Et juste par rapport à la question morale, après c'est pas moi qui le dis, il y a un sondage qui est sorti en juin qui dit que 80% en fait des Français sont favorables à l'interdiction des produits et des services les plus émetteurs de gaz à effet de serre. 75% contre les voitures les plus polluantes et 65% par rapport aux publicités sur les avions. C'est pas nous qui le disons, c'est l'opinion publique.
Alors,
là pour le coup qui va vers ça.
On va finir ce tour de table avec Bertrand Chauvet qui est donc directeur général France de Brand Finance, et puis après on rentrera dans le détail des produits, parce que c'est ça qui est intéressant, être concret pour les auditeurs et les auditrices. Pour ou contre l'interdiction des publicités pour ces produits?
Je crois qu'il faut élever le débat un peu plus...
Ouais, je vous remercie. Mais allez-y,
au-delà de la publicité, c'est-à-dire de se dire, aujourd'hui on a une volonté de transition écologique, de société, donc c'est fondamental. Après, il faut voir qu'avant la publicité, il y avait des marques. Hein, et derrière les marques, il y a des entreprises, des employés, des collaborateurs, une compétitivité mondiale. Et derrière chaque marque, il y a cette notion d'actif qui est en fait un bien ou un stock au sein du bilan d'une entreprise. Et à partir de là, il faut aussi finalement factualiser beaucoup plus ces décisions. Et en 78, on disait qu'il était interdit d'interdire.
Absolument.
Donc,
68.
Pardon.
Mais en 78, on continue à le dire.
Voilà, en 78, on continue. On en parlait avec Franck tout à l'heure. En 88,
il y avait
un débat.
Mais ça, c'est un bon sujet.
Voilà. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'interdire. Et d'ailleurs, c'est une partie du projet de Mathieu Orphelin. Mais c'est de gérer cette transition.
Oui.
Cette transition, il faudrait la factualiser aussi par rapport à l'économie française, c'est-à-dire regarder quels sont les tenants et les aboutissants. On a eu un sondage qui est paru il y a quelques jours sur la marque Peugeot, qui est devenue plus compétitive que les marques allemandes sur l'automobile en France durant le confinement. C'est assez intéressant, c'est un sondage YouGov sur à peu près 1000 individus. Donc ça montre bien
Mais pourquoi
c'est une préférence des Français pour la marque Peugeot.
Mais parce que c'est du Made in France?
je pense qu'il y a un retour à des fondamentaux, etc. Maintenant, la façon dont on va gérer cette transition, c'est-à-dire que si on affaiblit la marque Peugeot sur son marché cœur, qui est le marché français, on va se retrouver avec un problème de compétitivité non seulement français, mais aussi au niveau mondial. Et c'est là où on va affaiblir notre économie, et c'est là où aussi on va avoir du mal
après-demain
à gérer notre
transition.
Plutôt qu'interdire,
utilisons cette publicité pour valoriser et pour aider à cette transition écolo, pourquoi
exactement.
Pas
Et trouvons le bon équilibre, c'est-à-dire trouvons la défense de nos avantages compétitifs en même temps que de gérer cette transition écologique qui est fondamentale.
On rentre dans le détail avec des exemples concrets dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, on est toujours ensemble en direct, bien sûr, pour le Club des Idées et le grand débat avec cette question ce soir. Faut-il interdire la pub des produits nocifs pour notre santé? On parle du Nutella, de McDo, des véhicules 4x4, de tout un tas de marques, de l'agroalimentaire, mais également l'électroménager, par exemple, parce que c'est fabriqué à l'étranger, parce que l'impact écolo est important et parce que, au bout du bout, tout ça émet du CO2 et peut être dangereux pour notre santé. Voilà, un projet de loi est en discussion et sur le bureau de la ministre de l'Écologie, Barbara Pompili. Alors, je voudrais, vous qui êtes à mes côtés autour de la table avec mes invités, vous faire entendre cette publicité. Ça remonte aux années 80. Vous savez, c'était l'époque où on avait le droit, un, de faire de la pub pour les cigarettes, deux, de faire de la pub pour de l'alcool, et ça donne ça.
Sans la vodka, Christophe, vos jus de fruits ne seraient que des jus de fruits.
Un Ricard, sinon rien.
Martini, on the rocks, la recette du plaisir.
Voilà, un Ricard sinon rien, ça paraît complètement d'un autre monde aujourd'hui. Et pourtant, ça n'est pas si vieux, Franck Tapiro. Vous êtes président de l'agence Hémisphère Droit, ex-publicitaire, chacun vous connaît. Est-ce que ça n'est pas logique qu'aujourd'hui, on se pose la question d'interdire des produits qui sont nocifs quand même pour notre santé, puisqu'on a bien interdit, encore une fois, l'alcool et la cigarette? Et à l'époque, au moment de la loi Evin, en 91, ça a fait un barouf pas possible. Tout le monde disait, mais arrêtez, vous voulez interdire, ça va plomber l'industrie du tabac, ça va plomber l'industrie de l'alcool, et puis l'industrie a survécu.
Alors la différence, c'est que pour le tabac et pour l'alcool, il n'y avait pas un problème de transition. Il y a un problème d'interdiction, un problème de santé publique, il fallait vraiment mettre un arrêt net. Quand on parle de transition écologique, il y a une incompatibilité totale avec l'interdiction de la publicité, je vais vous le démontrer, c'est très simple. Si on veut éviter que Renault, que Peugeot fassent des publicités pour des moteurs atmosphériques qui sont d'ailleurs, je le répète, de moins en moins polluants.
Oui.
Regardez les études, et ils démontreront, je pense que monsieur sera d'accord. Il faut leur permettre d'écouler et de vendre tout leur stock de voitures à moteur atmosphérique pour que l'investissement soit mis en masse sur l'innovation. Et l'innovation et la R&D, recherche et développement, ce n'est pas seulement, on sait, les voitures électriques qui coûtent très très cher, mais c'est aussi le moteur à hydrogène. Comment voulez-vous financer la recherche et le développement si on les empêche de faire de la publicité pour les produits qui, par leur vente, vont favoriser cette recherche? Donc encore une fois, la transition, c'est dans le temps.
Vous me permettez,
une interdiction bloque la transition.
Vous me permettez, Franck Tapiro, d'évoquer un autre exemple. Ouais. La pâte à tartiner, bien connue, je vais arrêter d'en faire la pub parce que sinon je vais me faire gronder.
Je l'adore.
Impact nutritionnel énorme. Vous savez que l'obésité concerne 17% des adultes, chez les enfants 16% des garçons, 18% des filles. Avec une injonction de la société à manger mieux. On nous le dit à l'école, on nous le dit dans les familles, c'est un problème de santé publique et on continue à faire de la pub pour une pâte à tartiner dont on sait qu'elle apporte plus de calories qu'il en faut chaque jour pour un enfant.
Eh bien non, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on oublie le libre arbitre, qui est quand même ce qui nous détermine en tant qu'humain, en tant que parent, en tant qu'éducateur. Et à un moment, si on n'est pas capable avec un produit de le donner de façon modérée à ses enfants, ça veut dire, qui fait l'erreur? Est-ce que ce sont les producteurs de ce produit ou ceux qui l'achètent et ceux qui le donnent à leurs enfants sans les éduquer? Je suis désolé, il y a en tout une éducation. Ce devoir d'éducation le délègue de plus en plus aux réseaux sociaux et à tout, et à la publicité qui aussi favorise ce mieux manger. N'oublions pas que depuis quelques années, le manger bouger depuis 2004 favorise ça. Donc, encore une fois, je pense que l'éducation vaut toujours mieux qu'une interdiction.
Bien, Khaled Gaïji, vous êtes président des Amis de la Terre. Votre réaction?
Ma première réaction, c'est d'abord par rapport aux interdictions. En fait, il faut savoir que quand il y a eu la loi Evin qui a été mise en place, il y a eu en fait quand même une planification en fait des interdictions. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une interdiction de, par exemple, des publicités pour le tabac du jour au lendemain.
Oui.
On a eu en fait une séquence, etc. Donc du coup, en fait, c'est ça la transition, c'est de planifier, de pouvoir planifier les choses et pas arriver du jour au lendemain et de créer une crise.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ce qui vient d'être dit sur le caractère interdire c'est infantiliser les consommateurs et les Français, c'est les prendre pour les imbéciles en somme.
Pour l'instant, c'est plutôt le discours publicitaire qui est là pour influencer, en fait, pour amener à acheter des marques. Et je pense qu'il faut quand même se dire les choses. La question du libre-arbitre n'est pas démontrée quand on a autant de publicité. Aujourd'hui, on reçoit entre 1200 et 2200 messages publicitaires par jour, plus de 15 000 stimuli commerciaux.
Oui, chaque jour, oui. Par jour.
Oui, c'est une étude d'Arnaud Petre. Enfin, tout ce que je dis est sourcé donc là-dessus par des chercheurs indépendants.
Quand on se promène dans la ville, sur nos téléphones, sur notre ordinateur.
Bien sûr, et plus de 15 000 stimuli commerciaux. C'est-à-dire quand on voit un logo quelque part, en fait, il y a quand même une influence qui est exercée par le fait de voir toutes ces marques tous les jours. Ouais. Et ça, c'est une influence sur la consommation derrière.
Pardon, je fais une petite parenthèse, mais Franck Tapiro, ça continue à faire vendre une bonne publicité ?
Mais évidemment. Depuis des années, j'ai tout entendu sur la publicité, ça fait 30 ans que j'en fais. Je ne connais pas un directeur des ventes qui, en vous montrant la courbe exponentielle de ses ventes, ne commence pas par une bonne publicité.
Même pour la célèbre pâte à tartiner que chacun connaît. On la voit dans les rayons, on l'achète presque par habitude, c'est son petit péché mignon. Ça continue à faire vendre quand on en fait de la pub.
Mais comme pour la fameuse boisson gazeuse d'extrait naturel américaine, je dis bien d'extrait naturel, parce qu'on dit souvent que c'est chimique, c'est faux. Depuis des années, ils savent que s'ils ne communiquent pas pendant une journée, ils ont un risque de perdre une part de marché. C'est pas parce que vous êtes hyper connu, que vous êtes leader, que vous êtes vraiment appelé et demandé par les gens, qu'il ne faut pas continuer à communiquer. Pourquoi ? Communiquer, ce n'est pas pour plus vendre ou justement mal consommer, mais peut-être pour mieux consommer et enseigner d'autres façons de consommer. Je sais que cette fameuse pâte à tartiner, maintenant fait des recettes avec des grands chefs aujourd'hui, comme Grégory Cohen et d'autres, pour apprendre des recettes où cette pâte à tartiner, puisqu'on ne peut pas la citer, mais si tout le monde l'a compris, quelle publicité extraordinaire, est utilisée et consommée de façon différente et créative. Donc moi, je préfère ça qu'une interdiction qui tente évidemment à pousser les gens à en acheter un peu plus d'ailleurs.
Merci pour cette parenthèse. Petit mot de Raled Gaïji.
Peut-être juste pour dire quand même, en fait, la publicité augmente la consommation. C'est démontré maintenant. Il y a plus d'environ 6-8% en fait, il y a des études qui le montrent au niveau du marché américain sur 30 ans et qui a une augmentation de la consommation et du marché. Et les interdictions marchent. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez l'exemple du Chili qui a interdit la publicité pour les produits trop gras, trop sucrés pour combattre l'obésité. Ça a baissé les consommations de soda de 25% par rapport au tabac. Aujourd'hui, ça a baissé de 43% en fait, justement, ce type de politique-là. Alors, et c'est ça l'impératif.
L'interdiction au service de la santé, Bertrand Chauvet.
Alors, le problème, là aussi, c'est pas forcément, je vais être encore le monsieur loyal, désolé.
Mais vous avez le droit de l'être.
L'idée, c'est justement de revenir un peu à ces effets négatifs de l'interdiction. En fait, le problème de l'interdiction, c'est qu'elle crée une non-différenciation, qui est un des rôles fondamentaux de la publicité, c'est-à-dire de différencier les offres sur des dimension émotionnelle, et elle crée de l'homogénéisation. Et quand on crée de l'homogénéisation, finalement, on ne donne plus le choix aux consommateurs, mais aussi, on tue l'innovation. C'est-à-dire qu'on tue la volonté des entreprises à vouloir travailler sur des moteurs qui vont créer, finalement, le monde de demain.
Je reviens sur l'automobile, je vous suis tout à fait, mais pour les pâtes à tartiner, pour les produits de grande consommation industrielle...
Sur la cigarette, il y a 3 ans, en Australie, le passage au paquet neutre a permis à 4 acteurs du marché de gagner chacun 10% du marché total. Donc, les 4 marques leaders se sont appropriées 10% en plus du marché. Donc, on crée, en fait, une dynamique qui va servir les marques leaders aux dépens des petites marques, des marques innovantes qui doivent justement utiliser la publicité pour se différencier.
Donc, on tue la concurrence, c'est ce que vous voulez dire.
Exactement. C'est-à-dire que quand on ne donne plus le choix aux consommateurs, on va rentrer dans des réflexes standardisés de consommation et c'est là où on crée un deuxième problème.
Voilà, c'est passionnant et on continue d'en parler dans quelques secondes, 19h40 avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, on est toujours avec nos invités en direct dans le Club des Idées. Cette question ce soir, faut-il interdire la pub des produits nocifs pour notre santé ? C'est en débat. C'est ce que propose notamment un projet de loi qui est sur le bureau de la ministre de l'écologie, Barbara Pompili. Alors, juste avant la pause, on se demandait si la publicité n'a pas vocation à épouser l'époque d'une certaine manière dans laquelle elle s'inscrit. À ce propos, je voulais vous faire partager une publicité que vous avez peut-être oubliée, mais qui va vous rappeler, j'en suis sûr, des souvenirs. Nicole Garcia pour Eram en 76.
La femme n'est pas l'égale de l'homme. La cuisine, moi j'adore la faire. Qu'un homme m'offre des fleurs, des cadeaux, je trouve ça normal. J'adore la futilité. J'aime bien m'habiller, j'aime bien aller chez le coiffeur, j'aime bien être belle, j'aime bien mâcher des chaussures. Ça vous choque d'entendre ça aujourd'hui ? Moi, ce qui me choque, c'est d'acheter des chaussures à n'importe quel prix. 55 francs.
55 francs chez Eram.
Voilà, là aussi, c'est d'un autre temps. Mais c'est vrai que la publicité a aussi vocation à épouser les aspirations de la société et à changer d'époque, à accompagner ces changements d'époque. Donc, avant, c'était la place de la femme et heureusement, on y est arrivé. Aujourd'hui, c'est des aspirations à mieux manger et à être plus écolo. Franck Tapiero, donc, est-ce que la publicité ne doit pas aussi prendre ce virage-là, quitte à parfois interdire des publicités pour des produits qui sont vraiment trop polluants? Je vous prends un autre exemple, on parlait de la pâte à tartiner. Les t-shirts, par exemple, de la fast fashion, vous connaissez ces grandes enseignes, il y en a plein sur les Champs-Élysées, il y en a partout dans nos villes. Des t-shirts qui coûtent 2 euros, 5 euros, 3 euros, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Ben, l'empreinte carbone, par exemple, d'un t-shirt en coton équivaut à 5,6 kilos de CO2 par an. Un seul t-shirt.
Bien sûr.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'immoral à faire de la pub pour ce business-là?
Mais déjà, la pub a toujours eu un rôle sociétal. Et depuis les années 70, et tous les publicitaires, tous ceux qui observent la société, même les anthropologues, ont regardé que la publicité avait toujours même une avance de phase. On disait même que la publicité ne surfait pas sur les vagues, mais même qu'elle les créait. Et c'est vrai que ça a aidé énormément de choses. D'ailleurs, il y a eu des réglementations pour l'acceptation, pour le respect, par exemple, des genres dans les publicités où la femme était cantonnée à un rôle épouvantable. Ça a été interdit. Et ça, c'est une interdiction positive, il y a des injonctions positives. Pourquoi ? Parce qu'on a sorti justement du cadre pour essayer d'ouvrir les mentalités. Donc on voit que ça marche énormément. C'est un miroir donc, qui est toujours en avance de phase et donc qui s'adapte aussi, qui doit sentir les coups à l'avance.
Oui.
Pourquoi ? Parce que quand une pub sort, elle doit être juste avant la tendance, jamais après, jamais trop tôt non plus parce que sinon on est complètement en décalage. Donc c'est vrai que c'est un vrai boulot d'anthropologie et un boulot d'observation sociétale et c'est toujours très intéressant parce que ça évolue en permanence.
Bien, Bertrand Chauvet, vous êtes directeur général France de Brand Finance.
Là aussi, on revient au fondamental, non pas simplement de la publicité, mais des marques et des entreprises en fait. Et la relation entre marque et entreprise, elle est aussi de guider les choix des consommateurs. Et quand on guide les choix des consommateurs, on se doit à un certain niveau de qualité, à des engagements, à une raison d'être aussi aujourd'hui par rapport à la société, au monde qui nous entoure. Et ça, c'est les messages que la publicité aide énormément à faire passer. Elle aide à accélérer ça. Plus on va investir en publicité, en médias, en expérience client, en accompagnement des consommateurs ou des prospects, plus on va générer un gain de perception et à terme, on va générer de la performance pour l'entreprise. C'est comme ça qu'on construit des marques fortes.
Oui.
Et pour construire des marques fortes, en fait, il faut évidemment travailler fortement sur cette notion de qualité et d'expérience. Et quand vous interdisez finalement cette expression de cette différence, cette mise en avant de la qualité, vous donnez la place parfois à de la contrefaçon. Donc c'est ce qui se passe sur le marché de la cigarette à partir du moment où, par exemple, on passe à des paquets neutres. C'est ce qui s'est passé lors de la prohibition pendant 13 ans aux États-Unis. Et ça a certes limité la consommation d'alcool pendant un certain temps, mais à l'opposé, ça a créé des vides. Et on va dire que l'eau, elle coule toujours dans le sens de la pente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va interdire des publicités pour les SUV, on va trouver d'autres moyens d'acheter ces SUV si on a vraiment envie d'un SUV.
Il ne s'agit pas d'interdire les SUV, c'est d'interdire la publicité valorise
mais
des voitures polluantes.
Vous n'allez pas empêcher les consommateurs français comme les consommateurs mondiaux d'avoir une envie de véhicule avec un imaginaire plus forte et avec une hauteur sur rue qui soit plus importante.
Oui.
Donc voilà, donc le choix aujourd'hui il est libre. On peut acheter une Tesla qui est très basse sur pattes, on peut acheter une Tesla plus haute, on peut acheter une automobile à moteur fossile avec un corps qui est différent. Donc vous voyez, il faut laisser ce choix ça et c'est la liberté de choix qui est fondamentale dans le marché.
Le libre arbitre, répondez-vous à ça, Raled Gaïgi. Vous êtes président des Amis de la Terre et porte-parole de résistance à l'agression publicitaire.
J'ai déjà répondu sur le libre arbitre, comme quoi en fait il y avait une influence qui a amené en fait justement à augmenter les consommations.
Donc il n'y a pas vraiment de libre arbitre.
Non, en termes de publicité, en fait, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a un libre arbitre, parce que c'est l'objectif même d'influencer.
Et sur
en
la
fait,
distorsion de concurrence qu'évoquait monsieur tout à l'heure, et sur le fait que voilà, ça crée des difficultés autres, ces interdictions qui structurent le marché différemment et qui parfois participent à créer des marchés parallèles aussi.
L'appareillement, en fait, j'expliquais que les études montrent le contraire, c'est-à-dire que quand on interdit une publicité pour un produit et un service, notamment là, on a énormément de retours d'expérience sur le tabac, et une baisse de consommation. Bien sûr, il n'y a pas que la publicité, il y a aussi des politiques publiques, de taxation, etc.
Voilà.
Mais là, je parle vraiment de la publicité en, fait, en soi. Il y a une étude, par exemple, dans 51 pays qui a montré en fait, cette baisse de 6 à 7% en fait, justement, de consommation du tabac par habitant dû seulement à un facteur publicité. Donc, et on se base vraiment sur des études, je ne dis pas n'importe quoi. Pour revenir au SUV, quand même, c'est quand même assez important aujourd'hui. Il faut savoir que la vente, le SUV, c'est le véhicule le plus vendu en France.
Après, il y a des SUV qui sont très propres, très peu émetteurs de CO2. Il y a même des SUV, je crois, électriques.
Non, c'est pas vrai, en fait, parce que le poids, en fait, d'un véhicule qui même fonctionne à l'électricité est très polluant. mais en fait, le CO2, l'électricité n'est pas neutre, il y a quand même une consommation. Oui. Donc, et en gros, en fait, il faut savoir que la plupart en gros, des publicités, depuis une dizaine d'années, la part des SUV dedans a augmenté. D'ailleurs, on vient d'en entendre une juste avant l'émission.
Vous arrivez, vous, à ne pas acheter sous influence et à garder votre libre arbitre ?
Alors, la question du libre arbitre, en fait, ne se pose pas en ce sens-là. C'est que moi, en fait, j'ai eu une forme de politisation et de regard critique qui a augmenté, qui fait que j'ai eu un regard critique par rapport à la question de la publicité. Donc, je pense que ça ne s'exerce pas pareil, en fait, pour une personne comme moi, ou des gens qui sont, on va dire, assez militants, que pour rapport à un lambda, en fait, qui est plutôt indécis de base.
Et vous, Franck Tapiro, qui avez bossé là-dedans pendant des années et des années, vous arrivez à quand même vous faire avoir de temps en temps par les pubs ?
Non, parce que déjà, j'étais un des premiers publicitaires avec Jacques Séguéla, il y a déjà 25 ans, à lutter contre énormément d'abus de la publicité. Ça pourrait pas être incroyable, parce qu'on voit tout le temps parler de la pub en bien, parce que oui, il faut défendre ce métier extraordinaire qui est la publicité créative. En revanche, on n'est pas des dingues, on n'est pas des fous. On s'est opposé, par exemple, dès le démarrage, par exemple, à l'entrecoupure des films par les publicités, qui sont aujourd'hui l'inverse. Oui. On entrecoupe les publicités par des longs métrages. on l'avait déjà décrié il y a 25 ans. Et donc voilà, le trop de pub tue la pub. C'est ça qu'il faut savoir. La vraie pollution de la publicité, c'est quand elle est mauvaise, quand elle n'est pas créative ou quand il y en a trop. Moi, je suis pour la publicité qualitative, créative, et les marques n'attendent que ça, et le public aussi. Le public adore la publicité. C'est la mauvaise publicité qui tue, je suis bien d'accord avec vous. Alors moi, je serais d'accord pour la censurer, celle-là.
On fera le match 2, parce que je pense que le projet de loi, s'il arrive en Conseil des ministres et après à l'Assemblée nationale, ça donnera lieu à de nouveaux débats. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été ce soir en direct dans le Club des idées. On poursuit dans quelques secondes, 19h49, avec le jour où on va plonger dans nos archives, comme tous les soirs. On vous racontera justement dans quelques secondes quand la France a décidé d'interdire la pub pour les cigarettes.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, on est toujours en direct dans le Club des idées d'Europe Soir. Et comme chaque soir, vous en avez l'habitude, on plonge maintenant dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Yasmine Akatou.
Bonsoir Julien.
Vous nous avez rejoint alors pour prolonger le débat de ce soir sur l'interdiction ou non demain de la publicité pour les produits polluants. On va revenir avec vous sur le jour où la pub pour la cigarette a été interdite. Alors tout le monde se souvient évidemment de la loi Evin en 91, mais en fait Yasmina, la France a légiféré bien avant.
Oui, 15 ans avant, en juillet 1976, dans la loi Veil, premier texte en France qui s'attaque à la promotion du tabac, le texte limite la pub pour la cigarette et l'autorise uniquement dans la presse écrite. 4 mois avant l'adoption du projet, Simone Veil était l'invitée d'Europe 1.
C'était indispensable pour rendre crédible l'action d'information que nous voulons faire ensuite. Le ministre des Finances a été extrêmement compréhensif et s'est parfaitement rendu compte qu'on ne pouvait pas ne pas faire de campagne contre le tabagisme, contre l'excès de tabac, à partir du moment où scientifiquement il était prouvé qu'il y avait des conséquences pour la santé.
Donc il y avait déjà une loi adoptée en 76 pour interdire la pub pour le tabac. Alors Yasmina, pourquoi un autre texte et pourquoi cette loi Evin ?
Eh bien parce qu'il y a eu des abus, Julien. Pendant 15 ans, l'industrie du tabac s'arrange avec le texte, le détourne et continue à faire de la pub indirecte pour la cigarette. C'est là que Claude Evin durcit le ton. À l'époque, ministre de la Santé, il s'est exprimé juste avant la première présentation de son projet de loi à l'Assemblée. Claude Evin était interviewé par Jean-Pierre Elkabbach.
On peut encore le voir tous les jours, par exemple au cinéma. Il a été interdit en France la publicité sur les produits du tabac. On a fait une publicité sur les allumettes et sur les briquets. Depuis maintenant 15 ans, les professionnels ont toujours essayé de ridiculiser les pouvoirs publics.
Et le même jour à l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas convaincus, à l'image d'André Santini de l'UDI, ancien ministre de la Communication.
Vous comprendrez que je ne peux pas accepter que l'on prive les industries de la communication de 2 milliards de francs sans concertation, sans mesure pédagogique, donc je voterai sans état d'âme contre un texte foudre aux yeux.
Alors la loi est finalement adoptée un an plus tard, le 10 juillet 1991, soutenue par des députés de gauche comme de droite.
Oui, et les lois Veil et Evin ont ensuite atteint la culture, l'une des raisons pour laquelle Lucky Luke, le célèbre cow-boy, a arrêté de fumer au lendemain.
Et oui, la cigarette au bec du fameux cow-boy a été remplacée par un brin d'herbe au milieu des années 80, au grand regret de Maurice, le créateur de la BD Lucky Luke.
J'ai été obligé de supprimer cette cigarette. J'étais embêté d'ailleurs de le faire parce que ça faisait partie de tout le poncif qu'on voit dans les westerns. Alors, Gary Cooper se voulait une cigarette dès qu'il avait le moment. Mais enfin, c'est au moment où on a fait les films pour la télévision, en dessin animé, pour les gosses, que j'ai dû supprimer cette cigarette.
C'est donc pour la diffusion à la télé que Lucky Luke a commencé à mordiller à une brindille. Dans la bande dessinée, il aurait pu garder sa cigarette. Les livres jeunesse ne sont pas assujettis à la loi Evin. Et pour l'anecdote, Maurice a été récompensé par l'OMS en 88 lors de la journée mondiale sans tabac.
Merci Yasmina pour ces archives et ce point le jour où, tous les soirs à partir de 19h50 dans Europe Soir.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, Émilie Mazoyer qui va nous faire vibrer. Salut Émilie.
Salut Julien, comment ça va?
Bah ça va bien.
J'avais oublié d'enlever mon masque.
Bah, tu peux parler avec le masque, on ouais, t'entend quand même. Et alors ce soir, Émilie, j'ai appris que ça allait envoyer du lourd, ouais, chez toi, avec un live du tonnerre.
Exactement, du live, du lourd, du nouveau aussi. C'est un groupe américain, un duo qui vient de New York, qui s'appelle The Last International, comme l'international, la lutte finale. Ils ont choisi leur nom pour ça et ils font partie des Américains chanceux, j'imagine, qui ont passé le confinement en Europe. Et donc ils sont là, voilà, ils sont en France là, mais depuis des semaines et des semaines. Ils vont nous raconter aussi ce que ça fait d'être aussi loin de la maison en ce moment.
Bon, bah super, à tout de suite, Émilie. Show must go on à partir de 20h dans 3 minutes sur Europe 1 en direct. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure pour le 18-20. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer. Ciao, ciao.